ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli. Bonjour à vous, chers auditeurs de Radio B, et bienvenue dans cette émission de février. Si vous m'écoutez régulièrement, vous avez pu remarquer que les poèmes que je choisis de vous faire entendre chaque mois sont toujours accompagnés de musique, car il est important pour moi de conjuguer les deux. Alors habituellement, je pars de l'œuvre d'un auteur ou de l'un de ses ouvrages, ou encore d'un florilège de poèmes autour d'un thème, comme par exemple au mois de décembre, c'était sur la douceur. Et je cherche ensuite des pièces musicales qui peuvent se frotter au texte, de manière à créer un climat sonore, propre, je l'espère, à vous transporter ailleurs et à vous faire oublier pendant toute une heure une réalité qui, il faut bien le dire, n'a rien de très enthousiasmant depuis un an. Eh bien, les choses se sont passées un petit peu différemment pour la préparation de cette émission de février. Figurez-vous que récemment, j'ai entendu sur France Musique, cette émission hebdomadaire qui existe depuis les années 60, je l'avais évoqué d'ailleurs lorsque je vous parlais du poète Jean Tardieu, puisque c'est lui-même, en sa qualité de directeur des programmes à Radio France, qui l'avait initié. Il s'agit de la fameuse tribune des critiques de disques, que j'ai toujours plaisir à écouter, au cours de laquelle des critiques musicaux choisissent parmi plusieurs versions d'une même œuvre celle qu'ils jugent être la meilleure. Et cette fois-là, c'était Philip Glass, le compositeur américain contemporain, qui était sur le grill, avec ses études pour piano. J'ai été très touchée par cette musique et ça m'a donné l'idée d'inverser mon processus habituel. Plutôt que de partir des textes, je pourrais partir cette fois de la musique elle-même pour chercher des poèmes susceptibles d'entrer en résonance avec elle. Évidemment, vous allez me dire, c'est un choix très subjectif et un peu lié au hasard. Mais ça valait la peine d'être tenté au moins une fois et je dois dire que j'ai eu du plaisir à procéder de la sorte. J'espère donc que vous aurez, vous aussi, du plaisir à découvrir cette sélection. Avant toute chose, quelques mots sur Philip Glass pour ceux d'entre vous qui n'auraient jamais entendu sa musique. Il est américain, il est né en janvier 1937, il vient donc d'avoir 84 ans. Et il est aux côtés de deux autres Américains, Steve Reich et Terry Riley, un pionnier de ce qu'on a appelé la musique minimaliste, ou musique répétitive, ou encore, comme il préfère le dire lui-même, musique avec structure répétitive. Bien que sa production soit très variée et ait évolué depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, vous vous rendrez aisément compte, à l'écoute de ses études pour piano, qu'on a effectivement l'impression d'être immergé dans un paysage sonore, avec des motifs qui se répètent en évoluant insensiblement. Depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, Philip Glass a composé un très grand nombre de pièces de toute facture. Il s'est tourné aussi vers le théâtre, le cinéma, l'opéra, notamment pour une pièce intitulée Einstein on the Beach avec le dramaturge Bob Wilson. C'est aussi quelqu'un qui s'est intéressé à d'autres types de musique puisqu'il collaborera avec Paul Simon, Patti Smith, David Bowie, Leonard Cohen. Et à partir de la fin des années 80, ses productions évoluent vers une forme plus traditionnelle, plus lyrique, en se référant davantage à des styles de compositeurs des siècles passés. C'est donc un être complexe, aux multiples facettes, et c'est peut-être ce qui m'a fait penser qu'il pouvait aussi être associé à des textes poétiques, dont je vous donnerai au fur et à mesure les références. Parmi les 6 pièces que vous allez entendre, dans leur intégralité, avec des textes qui vont s'intercaler avec la musique, 4 d'entre elles font partie du premier volume de 10 études créé en 1994. Mais la première et la dernière de ces pièces sont quant à elles beaucoup plus récentes puisqu'elles font partie du deuxième volume de 10 études également et ont été créées en 2012. Voici pour commencer l'étude numéro 14 accompagnée de 2 textes de 2 poètes belges. Le premier c'est Max Elskamp, 1862-1931, et le second, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, c'est Géo Norge, 1898-1990. Deux fantaisistes, sculpteurs de langue, avec chacun leur forme d'humour, belge, bien entendu. Thank you. bar. Le bar, c'est Monsieur Ying qui vend du thé dans sa boutique au bout du quai. Assis en robe couleur prune, à son comptoir en bois de lune, c'est Monsieur Ying qui vend du thé et du ginseng et du saké. Avec la tresse au dos qu'il a parfumée d'huile au camélia. Or, sous son front, ses yeux obliques, et rangé comme un clavier blanc, c'est Monsieur Ying à la pratique qui sourit, les montrant ses dents, tandis que ses doigts, ongles longs, plongent dans des coffrets de laque où sont peints en or des dragons que des serpents enroulés traquent pour en tirer Peko, Souchong, Ankai ou encore Ipsong, selon que c'est thé vert ou noir qu'il agrée au client d'avoir. Mais dans un long kimono bleu est là Madame Yang, sa femme, avec du kohl autour des yeux qui disent « feu qui jette flamme ». Et c'est le soir, ceux des navires qui viennent prendre place aux tables, boire saké s'ils le désirent, ou bien, s'il leur est agréable, aimer, venu la fin du jour. Car lors, dans la fraîcheur qui naît, c'est Monsieur Ying qui vend du thé et Madame Yang, elle, l'amour. Boucherie. Dans la boucherie ombragée par d'opulents morceaux de bœuf, officie un prêtre tout veuf. Son épouse, d'ailleurs âgée, étant morte depuis le 9 courant, un vendredi par chance. Et lui, prince de la balance, jette bien rouge sur ce trône, digne aloyaux, rognon béjaune, et les grandes langues à faune, les cervelles conjecturales, aux florescences sous-marines, et la tête de veau très pâle, mais un peu plus rose aux narines. La date du jour fiancé aux œillets du comptoir, parmi les doux cressons et les pensées de la clientèle d'ici, sont bien présents dans ce récit. Et quel beau ressac pour l'esprit de ce boucher triste qui songe, entre tous ses coups de hachoir, au sort de la chair de déchoir, tandis que tombe un peu le soir, et que feu la bouchère plonge son récent fantôme au milieu de ces fantômes demi-dieux qui hantent dans la boucherie leurs sanglantes allégories. Thank you. deuxième étape de notre périple, avec l'étude numéro 9, plus brève que la précédente et au tempo plus rapide. Un seul poème intégré à la musique, celui de Oscar Vladislas de Lubick Miloš. Je ne vous garantis pas la prononciation. Poète né en 1877 dans une bourgade qui faisait alors partie de la Russie impériale, mais était au départ rattachée au Grand-Duché de Lituanie et se trouve à l'heure actuelle en Biélorussie. Tout cela est compliqué, me direz-vous, d'autant plus si j'ajoute qu'il viendra faire ses études en France et que c'est chez nous que ce poète travaillera et produira son œuvre littéraire en français. Alors il y a de la poésie, du roman, du théâtre, des essais, et ce jusqu'à sa mort en 1939. Le poème que vous allez entendre s'appelle « Le vent ». Je suis le vent joyeux, le rapide fantôme, au visage de sable, au manteau de soleil. Quelquefois je m'ennuie en mon lointain royaume, alors je vais frôler du bout de mon orteil le maussade océan plongé dans le sommeil. Le vieillard sitôt se réveille et s'étire et maudit sourdement le moqueur éternel, l'insoucieux passant qui lui souffle son rire dans ses yeux obscurcis par les larmes de sel. À me voir si pressé, l'on me croirait mortel. Je déchaîne les flots et je plonge ma tête, chaude encore de soleil, dans le sombre élément, et j'enlace en riant ma fille, la tempête. Puis je fuis. L'eau soupire avec étonnement. C'était un rêve, hélas. Non, c'était moi, le vent. Ici, le golfe invite, et cependant je passe. Là-bas, la grotte implore, et je fuis son repos. Mais, poète, comment ne pas aimer l'espace, l'inlassable fuyard qu'on ne voit que de dos et qui fait écumer nos sauvages chevaux. Il n'est rien ici-bas qui vaille qu'on s'arrête, et c'est pourquoi je suis le vent dans les déserts, et le vent dans ton cœur et le vent dans ta tête. Sens-tu comme je cours dans le bruit de tes vers, emportant tes désirs et tes regrets amers? Les amours, les devoirs, les lois, les habitudes sont autant de geôliers. Avec moi, viens errer à travers les sanas des chastes solitudes. Viens, suis-moi sur la mer, car je te veux montrer des ciels si beaux qu'ils te feront pleurer, et des morts apaisés sur la mer caressante, et des îles d'amour dont le rivage pur est comme le sommeil d'un corps d'adolescente, et des filles qui sont comme le maïs mûr, et de mystiques tours qui chantent dans l'azur. Tu n'interrompras point cette course farouche. Tu fuiras avec moi sans t'arrêter jamais. La vie est une fleur qui meurt dès qu'on la touche. Et ceux-là seuls, hélas, sont les vrais bien-aimés qui se fanent trop tôt sous nos regards charmés. Ici, j'éteins le ciel. Plus loin, je le rallume. Quand ce monde d'une heure a perdu son attrait, je souffle, le réel s'envole avec la brume, et voici qu'à tes yeux éblouis apparaît l'arc-en-ciel, frais et clos sur la jeune forêt. Un jour tu me crieras « Je suis là de ce monde qui meurt et qui renaît, je voudrais sur le sein de quelque noble vierge apaisante et féconde endormir pour longtemps le stérile chagrin de ce cœur enivré de tempête et de vin. » Alors, je soufflerai, rieur, sur ton visage, du pur soleil d'automne et sur l'esquif errant. Le frisson vaporeux des pourpres du naufrage, et l'aube te verra dormir profondément sur le sein de la mer illuminée de vent. Maintenant avec l'étude numéro 2 et trois poètes. Un départ en douceur avec Catherine Pozzi, 1882-1934. C'est une femme qui aura dans les années 20 une liaison tumultueuse avec Paul Valéry et qui sera toujours assoiffée d'absolu. Ensuite viendra un autre grand assoiffé d'absolu et d'aventure, le franco-suisse Blaise Cendrars, 1887-1961. Qui a été amputé d'un bras au cours de la Première Guerre mondiale, mais qui restera tout au long de sa vie passionné de voyage et d'écriture. Dans le recueil « Feuilles de route » apparaît le poème que vous allez entendre et qui a pour titre « Tu es plus belle que le ciel et la mer ». Pour terminer cette série, un texte qui n'est pas à proprement parler poétique, puisqu'il est tiré d'un journal intime, Les cahiers de Malte Lauritz Brigge, ce personnage derrière lequel se cache son auteur, le grand poète austro-hongrois Rainer Maria Rilke, 1875-1926, qui correspondait avec beaucoup d'écrivains de son époque, et notamment avec Catherine Pozzi. Ce texte de Rilke est, à mon sens, la mise en perspective la plus subtile et la plus limpide de l'essence de la création poétique. Terre rapide aux rives de la route, terre imprévue en un regard dissoute, terre entraînée au passé par les vents, je prends et perds tes arbres, tes vallées, tes noirs chemins, tes villes constellées et tes vivants. Le grand pays du bonheur sans mémoire se forme enfin sur la route où tu fuis, de l'horizon accourt la grande image. Des cieux nouveaux vont toucher mon visage. Je suis debout. Quand tu aimes, il faut partir. Il faut savoir chanter, courir, manger, boire, siffler et apprendre à travailler. Quand tu aimes, il faut partir. Ne larmoie pas en souriant, ne te niche pas entre deux seins. Respire, marche, pars, va-t'en. Je prends mon bain et je regarde. Je vois la bouche que je connais, la main, la jambe, l'œil. Je prends mon bain et je regarde. Le monde entier est toujours là. La vie pleine de choses surprenantes. Je sors de la pharmacie, je descends juste de la bascule, je pèse mes 80 kilos, je t'aime. Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux, il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l'on voyait longtemps approcher, à des jours d'enfance dont le mystère ne s'est pas encore éclairci, à ses parents, qu'il fallait qu'on froissât lorsqu'ils vous apportaient une joie et qu'on ne la comprenait pas, c'était une joie faite pour un autre, à des maladies d'enfance qui commençaient si singulièrement, par tant de profondes et graves transformations, à des jours passés dans des chambres calmes et contenues, à des matins au bord de la mer, à la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles. Et il ne suffit même pas de savoir penser à tout cela. Il faut avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d'amour dont aucune ne ressemblait à l'autre, de cris de femmes hurlant en mal d'enfant et de légères, de blanches, de dormantes accouchées qui se refermaient. Il faut encore avoir été auprès de mourants, être resté assis auprès de morts, dans la chambre, avec la fenêtre ouverte et les bruits qui venaient par à-coups. Et il ne suffit même pas d'avoir des souvenirs, il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux. Et il faut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent. Car les souvenirs eux-mêmes ne sont pas encore cela. Ce n'est que lorsqu'ils deviennent en nous sang, regard, geste, lorsqu'ils n'ont plus de nom et ne se distinguent plus de nous, ce n'est qu'alors qu'il peut arriver qu'en une heure très rare, du milieu d'eux, se lève le premier mot d'un vers. quatrième étape avec l'étude numéro 6, accompagnée d'un long texte en prose d'Isidore Ducasse, plus connu sous le nom d'emprunt de Lautréamont, 1846-1870. Un personnage étrange qui meurt jeune et dont l'œuvre reste inconnue du temps de son vivant, mais va être mise en valeur notamment par les surréalistes qui le considéreront comme un précurseur de leur mouvement, puis par bien d'autres après eux, chacun interprétant à sa façon l'œuvre d'un homme qui a sans doute été à l'origine de la modernité, mais n'a pas eu le temps de développer son écriture puisqu'il disparaît à l'âge de 24 ans. Son principal recueil s'intitule « Les chants de Maldoror ». Il est composé de 6 parties, 6 chants dont le fil conducteur est la présence du héros, Maldoror, un personnage mystérieux qui incarne l'homme dans toute sa complexité, tantôt méchant et cruel, tantôt capable de grandes actions et de miséricorde. Et j'ai choisi cet extrait du chant premier pour aller avec l'étude numéro 6 de Philip Glass, parce que j'y ai trouvé le même rythme effréné que celui du piano, un rythme qui porte en lui quelque chose de menaçant. Clair de la lune, près de la mer, dans les endroits isolés de la campagne, l'on voit, plongé dans d'amères réflexions, toutes les choses revêtir des formes jaunes, indécises, fantastiques. L'ombre des arbres, tantôt vite, tantôt lentement, court, vient, revient par diverses formes, en s'aplatissant, en se collant contre la terre. Dans le temps, lorsque j'étais emportée sur les ailes de la jeunesse, cela me faisait rêver, me paraissait étrange. Maintenant, j'y suis habituée. Le vent gémit à travers les feuilles ses notes langoureuses et le hibou chante sa grave complainte qui fait dresser les cheveux à ceux qui l'entendent. Alors, les chiens curieux brisent leurs chaînes, s'échappent des fermes lointaines. Ils courent dans la campagne, ça et là, en proie à la folie. Tout à coup, ils s'arrêtent, regardent de tous les côtés avec une inquiétude farouche, l'œil en feu. Et de même que les éléphants, avant de mourir, jettent dans le désert un dernier regard au ciel, élevant désespérément leurs trompes, laissant leurs oreilles inertes, de même, les chiens laissent leurs oreilles inertes, élèvent la tête, gonflent le cou terrible et se mettent à aboyer tour à tour, soit comme un enfant qui crie de faim, soit comme un chat blessé au ventre au-dessus d'un toit, soit comme une femme qui va enfanter, soit comme un moribond atteint de la peste à l'hôpital, soit comme une jeune fille qui chante un air sublime contre les étoiles au nord, contre les étoiles à l'est, contre les étoiles au sud, contre les étoiles à l'ouest, contre la lune. Contre les montagnes semblables au loin à des roches géantes, gisantes dans l'obscurité, contre l'air froid qu'ils aspirent à plein poumon, qui rend l'intérieur de leur narine rouge, brûlant, contre le silence de la nuit, contre les chouettes dont le vol oblique leur rase le museau en portant un rat ou une grenouille dans le bec, nourriture vivante, douce pour les petits. Contre les lièvres qui disparaissent en un clin d'œil, contre le voleur qui s'enfuit au galop de son cheval après avoir commis un crime, contre les serpents remuant les bruyères qui leur font trembler la peau, grincer les dents, contre leurs propres aboiements qui leur font peur à eux-mêmes, contre les crapauds qu'ils broient d'un coup sec de mâchoire, pourquoi se sont-ils éloignés du marais ? Contre les arbres dont les feuilles mollement bercées sont autant de mystères qu'ils ne comprennent pas, qu'ils veulent découvrir avec leurs yeux fixes, intelligents. Contre les araignées suspendues entre leurs longues pattes qui grimpent sur les arbres pour se sauver. Contre les corbeaux qui n'ont pas trouvé de quoi manger pendant la journée et qui s'en reviennent au gîte, l'aile fatiguée. Contre les rochers du rivage, contre les feux qui paraissent au mât des navires invisibles, contre le bruit sourd des vagues, contre les grands poissons qui, nageant, montrent leur dos noir puis s'enfoncent dans l'abîme, et contre l'homme qui les rend esclaves. Après quoi, ils se mettent de nouveau à courir la campagne en sautant de leurs pattes sanglantes par-dessus les fossés, les chemins, les champs, les herbes et les pierres escarpées. On les dirait atteints de la rage, cherchant un vaste étang pour apaiser leur soif. Leur hurlement prolongé épouvante la nature. Malheur aux voyageurs attardés. Les amis des cimetières se jetteront sur lui, le déchireront, le mangeront avec leur bouche d'où tombe du sang, car ils n'ont pas les dents gâtées. Les animaux sauvages, n'osant pas s'approcher pour prendre part au repas de chair, s'enfuient à perte de vue, tremblant. Après quelques heures, les chiens, harassés de courir çà et là, presque morts, la langue en dehors de la bouche, se précipitent les uns sur les autres, sans savoir ce qu'ils font, et se déchirent en mille lambeaux avec une rapidité incroyable. Ils n'agissent pas ainsi par cruauté. Un jour, avec des yeux vitreux, ma mère me dit « Lorsque tu seras dans ton lit, que tu entendras les aboiements des chiens dans la campagne, cache-toi dans ta couverture. Ne tourne pas en dérision ce qu'ils font. Ils ont soif insatiable de l'infini, comme toi, comme moi, comme le reste des humains à la figure pâle et longue. Même je te permets de te mettre devant la fenêtre pour contempler ce spectacle qui est assez sublime. Depuis ce temps, je respecte le vœu de la morte. Moi, comme les chiens, j'éprouve le besoin de l'infini.
Thank you.
cinquième étape avec, ça tombe bien, mais je ne l'ai pas fait exprès, l'étude numéro 5. Un morceau qui m'a tout de suite fait penser à un texte d'un poète contemporain que j'aime bien pour son art de trouver des formes originales et qui s'appelle Jacques Rebottier. Il est bien vivant, lui, contrairement à ceux que vous avez entendus précédemment. Il n'est plus tout jeune, certes, 73 ans, mais son écriture est toujours aussi vive et impertinente. Je vous livre la phrase d'introduction que j'ai trouvée sur son site et qui résume bien le personnage. Jacques Rebottier appartient à la folle famille de dislocateurs de mots, de sons et de cerveaux. Poète, compositeur, metteur en scène, il joue des points de vue et des registres dans une œuvre qui croque une civilisation qui ne va pas fort. Eh bien, dans l'étude numéro 5 de Philippe Glass, on a aussi l'impression que ça ne va pas fort, l'impression de quelque chose qui semble progressivement et implacablement se déliter. Et c'est justement le propos de « Litanie du désamour », le texte de Jacques Rebottier en 42 épisodes. C'est à ce moment que tu ne m'as pas vu, il faisait grand soleil. Nous avons alors senti très bien que rien ne va, que rien n'allait, que rien allait nous arriver. 41. Tout de suite, je me suis dit, fini, c'est fini. Les motos roulent, les mots parlent, les arbres s'arrêtent, les bicyclettes se regardent, c'est bien fini. 40. Déjà hier, nous n'étions plus très vivants. Tu sentais bien un peu le renfermer. Nous n'étions pas si vivants que ça. On sentait bien que ce n'était pas ça. 39. C'était, ça aurait pu être, dans un train, dans un rêve, au restaurant, sur le sable d'un nuage, sur un trajet de non-retour. C'était nous. 38. Déjà, je ne te disais plus rien, tu ne me disais plus tu. Sans doute avions-nous déjà depuis un long temps cessé de nous voir venir, tu disais ? 37. Tu m'avais dit, je vais voir et je reviens, tu vas voir. Je vais voir ce que je peux faire. Ne bouge pas, voyons. Je vais voir et je reviens. Viens. 36. C'était en traversant la rue, tu allais chercher 14 cigarettes. C'est fou les risques qu'on peut se prendre pour quelques cigarettes. 35. Écoute bien, la nuit est grave. La nuit nous ment. La nuit dangereuse ment comme elle respire à la santé obscure de nos poumons. 34. En cas d'incident, lisez, prenez votre temps, prévenir tout objet permanent ou personne suspecte au 329-12. 33. J'aurais tant voulu pourtant, je voudrais tant, j'aurais tant voulu que ce soit toi, mon prince marchand, et toi, ma belle au bois mordant. 32. Alors une dernière flamme nous a retournés, un grand besoin de bain de sang, un grand retour de sang, un dernier tour. 31. En cas d'incendie, gardez votre sang chaud, ne criez pas au froid, suivez les consignes de sécurité. 30. Tant de sang a passé dans l'obscurité, le temps dormait si bien dans son sommeil, et voilà soudain qu'il se retourne. 29. J'aurais tout le temps voulu, j'aurais tout le temps voulu, j'aurais voulu tout le temps, et maintenant voilà qu'il nous sépare. 28. Est-ce que je te dis encore quelque chose, ou bien vraiment plus rien? Dis-moi, dis-moi vite quelque chose, quelque chose. 27. Tant que le temps bougeait, il était encore vivant, et puis il a cessé, tu sais, et il s'est arrêté. 27. N'arrachez pas cette note, ne la recouvrez pas des meubles ou des dossiers et ne la brûlez pas. 27. Le temps aux babines retroussées, le temps diminué de moitié, les trois quarts du temps, le très grand temps. 27. Il m'a suffi de te voir, me voir, pour voir que c'était tout. Non, non, tu n'aurais pas dû brûler cette note. 26. Le temps me vient. Le temps repart, le temps circulation illimitée aux urgences, le temps coupé. 25. Interdiction, ne pas s'arrêter sur les bandes d'absence, attention aux odeurs de silence. 24. Tout de suite après, je me suis dit, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à rien faire. 23. Carrefour modifié, fin de priorité, le temps qui passe n'y pourra rien changer. 22. J'ai rien vu, j'ai rien compris. Je n'ai pas vu la malchance qui se glissait dans mon lit. 21. C'était sur l'autoroute en été, c'était chez d'horribles amis, en effet. 20. En cas de mon absence, tiré sur ma poignée. Ah, nous avons bien changé. 19. Il y a bien longtemps que je ne comprenais plus ce que je me disais. 18. Et je pensais, quelle est cette langue étrange dans ma bouche étrangère? 17. Une porte qui claque, un papillon de la nuit. C'est fini. 16. Un volet qui bat, une goutte de robinet. C'est fini. 15. Maintenant, voilà, notre vie n'est pas plus qu'un souvenir. 14. Le souvenir d'une vie survenue par en dessous. 13. Le souvenir d'une vie qu'on vivra par la suite. 12. Un rayon de soleil. Une table. Fini. 11. Une vie qui ne nous a plus regardés. 10. Un véhicule de chantier, un nuage. 9. Une vie de désilluminé. 8. Tu dis, c'est fini, terminé. 7. Terminablement fini. 6. Finalement, c'est bien. 5. C'est bientôt fini. 4. C'est bien fini. 3. L'infini. 2. Tu dis?
Si
sixième et dernière étape de notre voyage musico-poétique, c'est l'étude numéro 13. Ça file, ça court à toute vitesse, comme le temps qui passe trop vite. Trois poèmes sur ce temps qui défile. Le premier est de Philippe Soupeau, 1897-1990, qui participe au mouvement Dada, puis devient cofondateur du surréalisme avec André Breton. Philippe Soupeau, poète et journaliste qui a sillonné le monde, une vie bien remplie, sans beaucoup de temps mort. Viendra ensuite Liliane Wouters, 1930-2016, grande dame de la poésie francophone belge. Eh oui, on revient aux Belges. Il va falloir que je leur consacre une émission un de ces jours. Liliane Wouters qui nous a quittés récemment et qui est, comme nous tous, hantée par sa mort prochaine au moment où elle écrit ce poème. Puis ce sera Sylvia Plath, si je pense à l'anglaise, 1932-1963, poète américaine, jeune femme éprise d'indépendance et de liberté, dont la poésie, publiée en grande partie après sa mort, est grandement prémonitoire de son suicide à l'âge de 31 ans. Enfin, pour clore la liste, un court poème de Louise de Villemorin, 1902-1969, une sorte de pied de nez à la mort, on pourrait dire, avec un style plein d'élégance. Tant de temps. Le temps qui passe, le temps qui ne passe pas. Le temps qu'on tue, le temps de compter jusqu'à 10, le temps qu'on n'a pas, le temps qu'il fait. Le temps de s'ennuyer, le temps de rêver. Le temps de l'agonie. Le temps qu'on perd, le temps d'aimer, le temps des cerises. Le mauvais temps et le bon, et le beau et le froid et le temps chaud. Le temps de se retourner, le temps des adieux, le temps qu'il est bien temps, le temps qu'il n'est même pas. Le temps de cligner de l'œil, le temps relatif, le temps de boire un coup, le temps d'attendre, le temps du bon bout, le temps de mourir, le temps qui ne se mesure pas, le temps de crier gare, le temps mort et puis l'éternité. Que reste-t-il de ton passage, Ulysse ? Un vieux chant grec auquel nous avons bu. Ulysse, j'aurais tout aussi bien pu dire César, Hannibal. Le temps glisse lentement sur les rails de leurs exploits. Tramway nommé, non pas Désir, mais Nebel, Nebel und Nacht. Quid du renom ? J'ai froid jusque dedans ma charpente. Mon bel oranger s'est déjà flétri. Tout passe, tout est passé. Nous sommes encore là. Comme y furent César, Ulysse, et la reine, laquelle était-ce ? Tout s'efface, s'écoule, disait l'autre avec raison. Et moi je dis, de ton passage, Ulysse, ou bien du pont, que reste-t-il ? Ces ondes d'antan, avec ou sans leur neige, lisse. Les traits d'Ulysse ou de Durand, Sappho ne nous a laissé qu'un peu d'herbe, et Jeanne, qui fut pucelle, rien que cendre. Il faut clore ici, ne plus trop penser, Liliane. Je sais, mais je vois que mes jours s'en vont et que j'irai bientôt dans le cortège des Césars, des Ulysse, des Dupont, préposés à d'antan chercher les neiges. Thank you. Je suis verticale, mais je voudrais être horizontale. Je ne suis pas un arbre dont les racines en terre absorbent les minéraux et l'amour maternel pour qu'à chaque mois de mars je brille de toutes mes feuilles. Je ne suis pas non plus la beauté d'un massif suscitant des hauts et des has et grimé de couleurs vives, ignorant que bientôt je perdrai mes pétales. Comparé à moi, un arbre est immortel et une fleur assez petite mais plus saisissante. Et il me manque la longévité de l'un, l'audace de l'autre. Ce soir, dans la lumière infinitésimale des étoiles, les arbres et les fleurs ont répandu leur fraîche odeur. Je marche parmi eux, mais aucun d'eux n'y prête attention. Parfois, je pense que, lorsque je suis endormie, je dois leur ressembler à la perfection. Pensée devenue vague. Ce sera plus naturel pour moi de reposer. Alors, le ciel et moi converserons à cœur ouvert, et je serai utile quand je reposerai définitivement. Alors, peut-être, les arbres pourront-ils me toucher et les fleurs m'accorder du temps. Mon cadavre est doux comme un gant de peau glacée, et mes prunelles effacées font de mes yeux des cailloux blancs. Deux cailloux blancs dans mon visage. Dans le silence, deux muets ombrés encore d'un secret et lourds du poids mort des images. Mes doigts, tant de fois égarés, sont joints en attitude sainte, appuyés au creux de mes plaintes, au nœud de mon cœur arrêté. Et mes deux pieds sont les montagnes, les deux derniers monts que j'ai vus à la minute où j'ai perdu la course que les années gagnent. Mon souvenir est ressemblant. Enfant, emportez-le bien vite. Allez, allez, ma vie est dite. Mon cadavre est doux comme un gant. Eh bien, pour rester dans la métaphore du temps, sachez que le temps a passé trop vite en votre compagnie et qu'il est maintenant grand temps de nous quitter. Je vous donne rendez-vous au jeudi 18 mars prochain. D'ici là, portez-vous bien et prenez le temps de vivre.
Ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.